Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonsoir à tous. Le week-end de la Toussaint sera tranquille sur les rails. La SNCF annonce un trafic quasi normal cet après-midi. L'UNSA et la CFDT étaient reçues par le gouvernement qui a promis de nouvelles propositions sur les retraites des cheminots le 22 novembre. Édouard Philippe dévoile 23 mesures pour résoudre ce qu'il appelle les problèmes hors normes de la Seine-Saint-Denis. Des propositions accueillies avec beaucoup de prudence par les élus locaux de l'opposition, de droite comme de gauche. Pour en parler avec nous, notre invité Jeanlin Lacapelle, conseiller régional d'Île-de-France du Rassemblement National. Aux États-Unis, la procédure de destitution de Donald Trump prend de l'épaisseur. Les démocrates ont obtenu le droit d'interroger publiquement les témoins de l'affaire dite ukrainienne. Plus de précisions avec notre correspondant Loïc Loury dans un instant. Et puis, la disparition d'un trésor architectural au Japon. Le château de Shuri, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est parti en fumée. Nous serons avec notre correspondant au Japon, Frédéric Charles, à la fin de ce journal. Vous êtes bien sur France Culture, il est 22h. Un week-end de la Toussaint quasi normal sur les rails de la SNCF. Une seule perturbation annoncée sur la ligne Atlantique avec 8 TGV sur 10 en circulation. L'UNSA et la CFDT Cheminots étaient reçus par le gouvernement cet après-midi pour parler retraite. Le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye et le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari ont promis de nouvelles propositions le 22 novembre, quelques jours avant la grève illimitée des cheminots prévue le 5 décembre. Pour Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT, cette première négociation a été tout sauf simple.
Il y a deux sujets, il y a celui de la retraite et il y a le sujet du climat social au sein de la SNCF. Sur les retraites, on a convenu que pour le 22 novembre, on aurait des annonces. Donc on verra le niveau des annonces telles qu'elles seront sur les retraites, si elles répondent à nos attentes. Quant au climat social à la SNCF, si les réponses répondent à nos attentes, aux attentes de la CFDT, il n'y a pas de raison que nous allions dans un conflit le 5 décembre. Mais nous évaluerons ça avec nos troupes dès le 22 novembre. Nous souhaitons la clause du grand-père, c'est-à-dire le maintien des droits pour les cheminots au statut jusqu'au 31-12-2019, c'est-à-dire le régime spécial de cheminots, et une négociation exigeante au niveau de la branche pour les cheminots contractuels et les nouveaux embauchés, puisqu'ils seront embauchés dans le nouveau système de retraite. Le président de la République a dit qu'il regardait cette proposition avec attention sur les ondes très récemment. Bien entendu, ça va être un des points d'accroche, et derrière ça, ça serait de nature quand même globalement à rassurer 135 000 cheminots qui sont au statut aujourd'hui.
Et au beau milieu de ce climat social tendu, le nouveau patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ancien chef de gare, prendra ses fonctions demain matin. La fusion n'est pas encore officielle, mais le choix des Pays-Bas pour implanter le siège du futur mastodonte PSA Fiat fait déjà réagir du côté des syndicats. Une magouille fiscale pour la CGT, une facilité pour Force Ouvrière. En effet, les Pays-Bas sont connus pour leur statut fiscal avantageux. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé.
La fiscalité des Pays-Bas, c'est particulièrement attractif. D'ailleurs, le nombre de multinationales qui y sont installées ne trompe pas. Fiat Chrysler y a d'ailleurs déjà son siège. Un choix identique a été fait par Renault-Nissan. C'est principalement dans les relations avec les filiales que les règles de taxation batave sont intéressantes pour les multinationales, du fait de la possibilité de déduire les pertes de leurs filiales étrangères au moment qui les arrange. Cette règle permet d'utiliser les pertes d'une année antérieure pour compenser une année très réussie et donc réduire très fortement les impôts. Cette règle a été réformée en septembre. Les pertes ne peuvent plus être utilisées fiscalement que pendant 3 ans. Les Pays-Bas étaient dans le collimateur de la Commission européenne qui a multiplié les enquêtes sur les multinationales établies dans le Royaume, comme par exemple Starbucks ou Nike. Et le gouvernement néerlandais a voulu corriger son image de pôle d'optimisation fiscale qui passe mal désormais dans l'opinion publique.
Les syndicats qui craignent également pour l'emploi en France en raison des doublons qui pourraient naître de cette fusion. Des mesures hors normes pour des difficultés hors normes. Ce sont les mots d'Édouard Philippe au moment de dévoiler son plan de 23 mesures pour le département de la Seine-Saint-Denis, entre autres une prime de 10 000 euros après 5 ans de service pour fidéliser les fonctionnaires ou encore le recrutement de 150 policiers, 2 magistrats et des contrôles accrus des logements insalubres. Mais pour de nombreux élus du département, c'est insuffisant, Rosalie Lafarge.
Ils voulaient un big bang de l'égalité, il n'a selon eux pas eu lieu. Les élus sont ressortis mitigés de la préfecture de Bobigny. Pour le président socialiste du département, Stéphane Troussel, le diagnostic est le bon, mais le remède n'est pas à la hauteur.
Oui, le diagnostic, il est bon. C'est celui que nous-mêmes, nous faisons depuis tant d'années et qui nous a été si longtemps contesté. L'État désormais le reconnaît. Donc ça, c'est un acquis sur lequel nous allons nous appuyer. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rétablir les conditions de l'égalité dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis.
Même la mesure la plus marquante, la prime de fidélisation de 10 000 euros pour les agents qui restent sur le territoire, laisse certains élus sur leur faim, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.
C'est mieux que rien, mais c'est pas à la hauteur. Le gel du point d'indice des fonctionnaires depuis 10 ans, depuis 2010, est nettement supérieur par mois en termes de dégradation, de perte du pouvoir d'achat que les 166 euros d'augmentation mensuelle que va signifier ces 10 000 euros.
Certains se félicitent tout de même d'une prise en compte des problèmes du territoire par le gouvernement. Enfin, un début de solution, s'est réjoui le député LR François Cornu-Gentil, auteur d'un rapport accablant sur l'état du département, même si il le reconnaît, le chemin qui reste à parcourir est énorme.
Les explications de Rosalie Lafarge. Et pour revenir sur ces annonces, notre invité ce soir est Jeanlin Lacapelle du Rassemblement National, conseiller régional d'Île-de-France depuis 2015. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors plusieurs annonces pour le département de la Seine-Saint-Denis de la part d'Édouard Philippe aujourd'hui. On en rappelle quelques-unes. 150 policiers supplémentaires d'ici 2021, 10 000 euros pour les fonctionnaires qui restent plus de 5 ans, un pré-recrutement de 500 enseignants. Alors ça c'est un peu plus spécial. Il propose de financer les études d'étudiants boursiers de Seine-Saint-Denis s'ils s'engagent en retour à travailler dans le département. Est-ce que ces mesures vont dans la bonne direction selon vous?
Alors écoutez, bien sûr j'ai suivi cette actualité, j'ai vu que le gouvernement s'était déplacé en force et avait récité un peu ou dévoilé un chapelet de mesures qui, tout de même, entre nous, sont l'aveu d'un échec républicain, parce que c'est le énième plan Marshall ou énième plan de politique de la ville qu'on nous soumet. Il y a eu 75 milliards en 30 ans qui ont été investis dans les banlieues et ça a été un échec total. Et la Seine-Saint-Denis en est l'illustration. C'est emblématique, en effet, de l'échec de nos politiques de la ville. Il y a toujours autant de problèmes d'insécurité, des problèmes de désertification médicale, des problèmes de recrutement de fonctionnaires, notamment dans l'éducation nationale, et une installation massive, on le sait, de clandestins en Seine-Saint-Denis. Il y a un rapport parlementaire, d'ailleurs, très dernièrement, qui stipulait que 10 à 30% de la population n'était pas comptabilisée. Alors oui, le gouvernement, ce matin, est arrivé et nous a présenté un certain nombre de mesures. Il y en a certaines qui sont, bien sûr, louables, mais est-ce qu'elles seront efficaces si on ne règle pas le problème à la racine? Je constate qu'il propose en effet, vous le disiez, une prime de 10 000 euros pendant 5 ans pour les fonctionnaires qui resteront en Seine-Saint-Denis. Donc c'est ce que j'appellerais une prime de risque en quelque sorte, hein, parce qu'on va demander aux policiers de continuer à se faire insulter et se faire cracher dessus pendant 5 ans. On va demander aux professeurs de continuer eux aussi à se faire agresser ou à se faire insulter pendant 5 ans et on leur délivrera cette prime de risque de 10 000 euros. Alors, comme je vous le disais, ça me paraît tout à fait louable, mais tant qu'on ne s'attaque pas à la racine et aux causes des problèmes dans les banlieues, on n'arrivera pas finalement à régler la situation, parce qu'on n'est pas dans un problème économique, on est dans un problème culturel, on est dans un problème cultuel, je dirais même.
Qu'est-ce que vous attendiez pour, comme vous dites, combattre à la racine, selon vous, les problèmes qu'il y a en Seine-Saint-Denis?
Eh bien, il faut restaurer l'état de droit, car il y a des quartiers dans lesquels aujourd'hui, ni nos médecins, ni nos pompiers, ni nos policiers ne peuvent rentrer. Il faut appliquer la laïcité dans l'ensemble de la Seine-Saint-Denis. Il faut donc qu'on ferme les vigiers et les mosquées radicales qui aujourd'hui prônent ou prêchent contre les lois de la République. Il faut une tolérance zéro notamment et désarmer un certain nombre de quartiers de Seine-Saint-Denis. Il y a 5000 caïds d'après les renseignements policiers, 5000 caïds qui sont identifiés mais qui ne sont pas neutralisés aujourd'hui parce que la police n'en a pas les bonnes consignes. Et puis il faut qu'on renforce tout simplement l'assimilation des jeunes et de l'ensemble de la population. Ça veut dire que ça doit passer par l'instruction du français, l'instruction de l'histoire dans l'école, et c'est le respect de toutes ces valeurs qui ont construit la France qui permettra de maintenir la paix et de retrouver la prospérité dans ces quartiers.
Alors, il y a les élections municipales qui approchent, j'imagine que vous avez des ambitions en Seine-Saint-Denis, mais finalement on entend peu le Rassemblement National dans ce début de campagne là qui commence doucement. Il y avait Marine Le Pen qui a dit il y a quelques semaines que pour elle, c'était plutôt un tremplin vers les élections présidentielles. Quels sont les véritables objectifs en fait, du Rassemblement National pour le mois de mars et les municipales?
Oui, en effet, nous sommes en train de gravir des échelons avec un objectif final, vous l'avez compris, qui est la conquête de l'Élysée dans 2 ans et demi. Mais avant, on a cette élection municipale qui est très importante et on a un triple objectif. Le premier objectif, c'est de conserver toutes les mairies que nous avions conquises en 2014. Il y a un sondage, il y a quelques jours, qui est paru, où 72% des administrés, des habitants dans les communes tenues par le Rassemblement National, sont très satisfaits. Ça va être donc une vitrine et ça va être un tremplin pour cette campagne. Deuxièmement, l'objectif, c'est de conquérir de nouvelles communes. Et le troisième objectif, c'est finalement le plus important, il en est la conséquence, c'est la poursuite de notre implantation locale pour préparer en mars 2021 les élections départementales, les élections régionales. Tous ces élus municipaux, maires de demain, seront les élus régionaux et départementaux d'après-demain. Nous gagnerons des régions, on en est sûr, nous gagnerons des départements et tout ceci nous permettra simplement et nous favorisera l'ultime étape qu'évoquait notre présidente Marine Le Pen, qui est celle de la conquête de l'Élysée. Et je crois que Vous avez, comme moi, suivi aussi le sondage hier qui met en tête Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle.
Et alors justement, en ce moment, pour parler de campagne, il y a Emmanuel Macron qui parle laïcité dans Valeurs Actuelles. Il y a le débat sur le droit d'asile, il n'y a pas longtemps à l'Assemblée. Il y a les propositions des Républicains sur le voile porté par les accompagnatrices scolaires. En fait, on a l'impression que tout le monde fait campagne pour vous. Vous n'avez pas grand-chose à faire.
Écoutez, si tout le monde se rallie à nos propositions, en effet, 73% des Français sont pour l'interdiction du voile dans les sorties scolaires notamment. Eh bien écoutez, si comme vous le dites, les Républicains font campagne pour nous, si le ministre actuel de l'Éducation nationale semble également adhérer à nos propositions, eh bien écoutez, très bien. Mais nous avons toujours dit que nous avions gagné la bataille des idées et qu'aujourd'hui, il fallait qu'on gagne la bataille des urnes. Eh bien écoutez, nous sommes sur le bon chemin.
Merci Jean-Alain Lacapelle. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France pour le Rassemblement national. Merci d'avoir répondu à nos questions. La plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine, selon Donald Trump, l'impeachment prend de l'épaisseur aux États-Unis. Cette procédure de destitution du président est lancée depuis fin septembre par les démocrates. Ils ont obtenu aujourd'hui le droit d'interroger publiquement les témoins de l'affaire dite ukrainienne. Ils reprochent au président d'avoir abusé de ses pouvoirs pour obtenir des informations sur Joe Biden, son principal rival pour la prochaine présidentielle auprès du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Après des auditions à huis clos ces dernières semaines, la Chambre des représentants a voté cet après-midi, Loïc Loury.
232 voix pour, 196 contre, premier grand test passé pour les démocrates avec ce bémol, deux d'entre eux ont voté contre leur parti alors que les républicains faisaient front commun. Dans le détail, ce vote officialise enfin l'enquête en destitution après 5 semaines d'audition à huis clos, dénoncée comme opaque par les républicains. Ce vote devait donc calmer leur colère, ce n'est visiblement pas le cas. Cet élu du parti de Donald Trump dit s'inquiéter pour la suite.
Vous voulez savoir à quel point cette procédure est juste? Le texte nomme la commission des affaires financières comme partie prenante de l'enquête. Or, la présidente de cette même commission, ce mois-ci, a affirmé que Donald Trump devait être mis à l'isolement.
Les démocrates, eux, assurent au contraire que la procédure prévue par le texte est transparente.
Les auditions seront publiques. Ils peuvent interroger les témoins, présenter des preuves. Notre constitution l'exige. Notre démocratie en dépend.
Mais les républicains ne changent pas leur ligne de conduite. Les démocrates, disent-ils, abusent de leur pouvoir contre un président qu'ils veulent voir tomber depuis le premier jour. Réponse de l'opposition, vous ne parlez que de procédure pour éviter de parler du comportement de Donald Trump.
Les explications de notre correspondant à New York, Loïc Loury. L'organisation État islamique confirme le décès de son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, mort au cours d'une opération américaine dimanche dernier. L'organisation a également annoncé son successeur. Il s'agit d'Abu Ibrahim al-Hashemi. On estime à 14 000 le nombre de combattants ayant prêté allégeance à l'État islamique, encore dispersés en Syrie et en Irak. L'Espagne propose d'accueillir la COP25 début décembre à Madrid. Le Chili a renoncé hier à l'organisation de la conférence sur le climat en raison de la révolte populaire qui a déjà fait 20 morts et plus de 1000 blessés dans le pays en 10 jours. Il avait promis à la Grande-Bretagne un accord commercial magnifique. Donald Trump fait marche arrière. Il estime que l'accord de Brexit négocié par le Premier ministre Boris Johnson ne permettait pas de traité commercial avec les États-Unis. Au Japon, le château de Shuri, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été dévoré par les flammes. Par tous les bâtiments principaux, pardon, en tout 4800 m² du complexe sont partis en fumée. Une perte qui n'est pas sans rappeler le funeste incendie de Notre-Dame de Paris. Une correspondance de Frédéric Charles.
Le château de Shuri est une véritable forteresse avec de nombreux pavillons. Entre le 15e et le 19e siècle, il a été le centre politique et culturel du royaume indépendant des Ryukyu, au carrefour des échanges entre l'Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée et le Japon. Aujourd'hui, le pavillon principal du château, une vaste structure rouge à étages en bois, a été détruit par le feu. « Nous avons perdu notre symbole », déclare la maire de Nara, la capitale d'Okinawa. Le château de Shuri est le symbole d'une culture métissée spécifique. L'identité d'Okinawa réside dans un imaginaire imprégné d'animisme autonome du Japon. Shuri et son château ont servi autrefois de capitale du royaume des Ryukyu, royaume prospère qui a été intégré au Japon en 1879. C'est sur ces îles qu'eurent lieu les plus sanglantes batailles de la guerre du Pacifique. Le château avait été détruit par les bombardements américains puis reconstruit après-guerre. Sa population avait été victime aussi des exactions de l'armée japonaise. Le château de Shuri est enfin le symbole d'une culture victime aussi bien des Japonais que des Américains.
Une correspondance de Frédéric Charles. Un petit mot de la météo. Demain matin, au lever du jour, de la pluie sur la majeure partie du pays, à l'exception, comme bien souvent, du sud-est, d'Annecy jusqu'à Perpignan, également en Corse. L'après-midi, ce sera de la pluie pour tout le monde. Côté température, comptez 13 à Lille, Strasbourg et Lyon, 15 à Paris, 17 à La Rochelle et 18 à Marseille. Ce journal vous a été préparé par Caroline Beneteau, à la technique Jean-Frédéric, mais aussi le génial, le fabuleux, l'inénarrable Pierrick Monsigny.